C'est l'étape de la parole de Dieu. Et la parole va nous être apportée ce matin par une femme merveilleuse. C'est mon épouse, Emmanuelle, que vraiment Dieu a oint pour enseigner. Et je voulais vraiment l'inviter déjà. Nous pouvons l'encourager, si vous pouvons l'acclamer au nom de Jésus. Je vais prier pour elle, afin que vraiment, dans la liberté, dans la totale liberté de l'esprit, elle puisse communiquer ce que Dieu a mis dans son cœur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Père, pour Emmanuel, Seigneur Jésus. Je te rends grâce, Père, parce que je crois, Seigneur Jésus, que tu as déposé sur sa vie quelque chose de précieux, Seigneur. Et Seigneur, j'aimerais maintenant, Père, en priant pour elle, la libérer pleinement dans ce que tu veux accomplir dans sa vie. Seigneur, que le Saint-Esprit, maintenant même, la saisisse, Seigneur, d'elle et communique ta pensée, Seigneur, comme tu lui as communiqué. Seigneur, merci pour les cœurs, Seigneur Jésus, qui sont disposés à écouter ta pensée. Seigneur, que l'honneur, la gloire et la reconnaissance te reviennent maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen.
Bonjour à tous. Ce matin, je me suis réveillée avec un cantique en anglais, ça dit « You are God alone ». Et c'est un cantique qui dit « Avant que les temps ne commencent, tu étais sur ton trône, et même maintenant, dans nos bons et dans nos mauvais moments, tu es toujours sur ton trône. Et tu es toujours le seul Dieu. » Parfois, Dieu, c'est comme le soleil, il brille derrière le nuage de nos problèmes. Parfois, nous sommes dans des situations où nous ne voyons plus le soleil, mais il est toujours là. Il est celui qui brille derrière le nuage de nos situations. Et peu importe nos situations, nous savons qu'il est toujours Dieu, nous savons qu'il est toujours sur son trône. Et nous pouvons le louer, nous pouvons le célébrer parce que nous savons qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et nous savons que nos situations sont temporaires, mais notre Dieu est éternel. Et même si nous sommes dans la difficulté aujourd'hui, nous savons que ce n'est qu'aujourd'hui. Lorsque Noé est sorti de l'arche, Dieu a établi des principes. Il a dit que tant que la terre va subsister, la nuit et le jour vont toujours se succéder. Alors, je ne sais pas dans quelle situation tu es aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es dans la nuit, je ne sais pas si tu es dans le jour, mais ce qui est sûr, c'est que si tu es dans la nuit, tôt ou tard, le soleil va se lever. Et nous le bénissons ce matin parce qu'il est notre espérance, il est notre force dans la difficulté. Comme je le disais tout à l'heure, Dieu a pour nous, la Bible dit que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous savons donc que Dieu a pour nous des bons projets. Dieu veut que nous réussissions ce que nous faisons, que ce soit notre mariage, que ce soit notre travail, que ce soit nos études, que ce soit notre ministère, que ce soit dans nos relations, dans tous les domaines de notre vie, Dieu veut que nous réussissions. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous avons différentes clés sur la manière de réussir. Et ce matin, je vais vous amener dans la vie de Joseph, c'est l'un des personnages de la Bible les plus connus, dans la vie de Joseph, et au travers de la vie de Joseph, nous allons découvrir deux principes qui vont nous permettre dans nos situations, que nous pouvons appliquer à nos vies pour réussir dans tout ce que nous entreprenons. L'histoire de Joseph commence en Genèse 37. Il est encore très jeune, il a 17 ans. Et Joseph a une particularité, c'est que très tôt, il va savoir ce que Dieu attend de lui. Très tôt, il va avoir la révélation, il va faire des rêves qui vont lui dire, voilà là où tu t'en vas. Donc nous sommes en Genèse 37, des versets 5 à 7. Et la Bible dit que Joseph fit un rêve et le reporta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Donc déjà, ça ne commence pas bien. Il leur dit, écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs à lier des gerbes, et voilà que ma gerbe se dressa debout et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Donc très tôt, Joseph sait qu'il est appelé à dominer sur ses aînés. Je rappelle que Joseph n'est que le 11e. Nous avons tous des petits frères et nous savons que vraiment, s'il y a quelque chose que les grands frères n'aiment pas, c'est quand les petits frères prennent le dessus. Donc là, nous avons quelqu'un qui est carrément 11e, donc il y a 10 grands frères avant lui, et qui vient dire à ces 10 grands frères, vous savez quoi, je vais vous commander un jour. Ça, on a tous des enfants, c'est le début des problèmes. À partir de ce moment-là, Joseph va entamer un processus, un long processus. Parce que cette prophétie, elle va se réaliser, mais elle ne va pas se réaliser tout de suite. Et nous allons suivre étape par étape le processus que Joseph va suivre. Première étape, Nous sommes encore à Canaan. Et Joseph, il est, à ce moment-là, le fils d'un riche berger. On sait que Jacob, c'est un riche berger, il a beaucoup de biens. Et quand on voit ce que Joseph faisait auprès de Jacob, qu'est-ce qu'il faisait? Nous sommes dans Genèse 37, des versets 12 à 14. Les frères de Joseph s'en étaient allés pour faire paître le petit bétail de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, tes frères font paître le troupeau à Sichem. Vois, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Israël lui dit, tu vas aller voir si tes frères vont bien. Et si le petit bétail va bien, tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à Sichem. Donc, nous sommes encore à la première étape de la vie de Joseph et on voit qu'est-ce que Joseph fait. Ben, c'est comme un administrateur adjoint. Il fait des rapports. Donc, lui, son rôle, c'est d'aller voir comment vont ses frères, comment va le troupeau. Donc, à partir de ce moment-là, il n'est pas encore en pleine possession comme il va l'être plus tard, mais on voit qu'il commence déjà à administrer. Déjà, c'est le seul enfant de Jacob qui n'est pas auprès des troupeaux. Donc, ça veut dire que très tôt, son père a vu que son fils avait un don. Et donc, son père ne l'a pas fait garder les troupeaux. Son père l'a mis à ses côtés pour le former. Évidemment, ses frères ne vont pas bien comprendre. Et on va voir que plus tard que ça va créer des jalousies. Mais on voit déjà que Joseph, ce n'est pas un berger. Il s'est déjà un peu distingué de ses frères. Il travaille aux côtés de son père. Deuxième étape. Où est-ce qu'on va retrouver Joseph? En Genèse 39, on va retrouver Joseph comme administrateur des biens de Potiphar. Et la Bible nous dit que Potiphar, c'est qui? C'est un officier, c'est un chambellan de Pharaon. Les chambellans, c'est comme des nobles qui travaillaient auprès des rois. Donc, Potiphar, c'est un noble. Et on sait que Joseph a été vendu par... On sait, excusez-moi. Joseph, entre Genèse 37 et Genèse 39, a été vendu comme esclave par ses frères. Il a été racheté par Potiphar. Et qu'est-ce qui se passe dans la maison de Potiphar? Nous sommes en Genèse 39, 4. Joseph obtint la faveur de son maître dont il assurait le service et qu'il avait établi comme intendant sur sa maison en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Donc là, on est dans une situation où Joseph devient administrateur des biens de Potiphar. À cette étape, Joseph y continue son apprentissage. Mais c'est important cette étape, pourquoi? Parce qu'on sait que Joseph au départ, c'est un berger de Canaan. Ça veut dire qu'il ne connaît pas l'Égyptien, il ne connaît pas la société égyptienne. Et donc le fait de servir auprès d'un serviteur proche de Pharaon, mais il va apprendre la langue déjà. Il va apprendre comment fonctionne la société égyptienne. Il va apprendre comment fonctionne la cour de Pharaon. Parce que vous ne pouvez pas devenir premier ministre d'un pays, vous n'atterrissez pas. Je ne connais pas un immigrant qui arrive. Imaginez un immigrant qui va arriver au Québec, qui ne sait pas parler français et qui dit « je vais être premier ministre », je pense que tout le monde va se moquer de lui. Donc, c'est un peu la situation de Joseph. Il va apprendre la langue, il va apprendre comment fonctionne la société égyptienne. Nous sommes à l'étape 2. On avance. Genèse 39, 22. La femme de Potiphar accuse Joseph d'avoir tenté de la violer. Potiphar met Joseph en prison. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression que Joseph, il lui arrive que des choses bizarres. Mais quand on regarde le processus, on se rend compte en fait qu'à chaque fois, il franchit une nouvelle étape. Nous retrouvons Joseph en Genèse 39, 22. Qu'est-ce qu'il fait? Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et tout ce qui s'y faisait passer par lui. Donc là, étape 3, Joseph est administrateur des prisons d'Égypte. Pour ceux qui connaissent un peu le système carcéral, c'est un peu l'administration qui est au cœur de toutes les administrations. Parce que quand vous gérez le système carcéral, vous avez affaire à la justice, parce que ben, c'est les juges qui condamnent. Vous avez affaire aux services sociaux, parce que souvent, c'est des cas sociaux. Vous avez affaire au budget, même parce que c'est eux qui vous donnent l'argent. Donc, quand vous êtes dans l'administration carcérale, en fait, vous êtes en lien avec toutes les autres administrations. Donc, à ce niveau-là, Joseph, il a comme monté de degré et maintenant, il s'est mis à travailler avec toutes les administrations égyptiennes. Ce qui fait qu'évidemment, il s'est mis à maîtriser l'administration égyptienne parce qu'il s'est retrouvé au cœur de cette administration. Étape 4, Pharaon fait un rêve, personne ne peut l'interpréter. Qu'est-ce qui va se passer? On va appeler Joseph. Et Joseph, qu'est-ce qu'il va faire? Joseph ne va pas devenir premier ministre d'Égypte parce qu'il va interpréter le rêve de Pharaon. Non, il va devenir premier ministre d'Égypte parce qu'après avoir interprété le rêve, il va donner un plan d'action. Nous sommes dans Genèse 41, versets 33 à 36. « Maintenant que le Pharaon découvre un homme intelligent et sage et qu'il l'établit sur le pays d'Égypte, que le Pharaon agisse et qu'il nomme des fonctionnaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les vivres de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité du Pharaon des réserves de froment et de vivres dans les villes et qu'il en fasse la garde. Ces vivres seront en dépôt pour le pays en vue des 7 années de famine qu'il y aura, dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. » Donc on se rend compte que pour faire le plan que Joseph a donné, il fallait connaître l'Égypte, il fallait connaître les possibilités, il fallait connaître l'organisation. Donc à ce moment-là, quand Joseph arrive auprès de Pharaon, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le pays, qui connaît parfaitement la langue et qui sait ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Donc on voit que toutes les années, et nous sommes dans Genèse 41, la suite de ce plan d'action, c'est quoi? Genèse 41, versets 42 à 43. Le Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui venait derrière le sien et l'on priait devant lui à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna autorité sur toute l'Égypte. Mais là, ce n'est pas encore la prophétie de Genèse 37. La prophétie de Genèse 37 ne dit pas que Joseph va devenir premier ministre. Elle dit que ses frères vont s'incliner devant lui. C'est ça la prophétie de Genèse 37. Donc on n'est pas encore dans la prophétie de Genèse 37. Et ça fait combien de temps que Joseph est en Égypte? Parce que la Bible nous dit que c'est à 30 ans qu'il devient premier ministre. Le début de l'histoire, il a 17 ans. Donc ça fait déjà 13 ans que cette prophétie a été libérée. Elle ne s'était toujours pas réalisée. Donc, quand est-ce que cette prophétie se réalise? Nous sommes en Genèse 42, verset 6. À ce moment-là, nous sommes à la 2e année de la famine. Ça veut dire qu'il y a eu les sept années d'abondance. J'ai un problème avec le S de 7, il n'y a pas de S à 7. On a déjà passé les 7 années d'abondance. Nous sommes à la 2e année de la famine. Donc ça fait 9 ans que Joseph est premier ministre. Nous savons qu'il est devenu premier ministre à l'âge de 30 ans. Donc Joseph a 39 ans. En Genèse 42, verset 6. Joseph était donc le gouverneur dans le pays. C'est lui qui faisait vendre du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Donc, 22 ans après, la prophétie s'est réalisée. On est beaucoup dans le prophétique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de promesses. Dieu nous a dit ça. Et en général, on est pressé. Dieu m'a dit ça, ça doit se passer demain. Mais la vie de Joseph nous enseigne que Dieu n'est pas pressé. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais nous, on est pressé. J'ai reçu un rêve que je dois être évangéliste. Demain, je vais aller dans les rues. J'ai reçu un rêve que je dois me marier. Je dois me marier après-demain. Et donc, la première clé que nous pouvons retenir de l'histoire de Joseph, c'est qu'il faut aller au rythme de Dieu. Si tu veux réussir, tu dois aller au rythme de Dieu. Pas à ton rythme à toi, au rythme de Dieu. Et Dieu n'est pas pressé. Nous sommes pressés. Dieu n'est pas pressé. Et si c'est Dieu que tu veux servir, tu as intérêt à ne pas être pressé. J'en sais quelque chose. On veut les choses tout de suite, maintenant. On est dans en latin dit hic et nunc. Nous sommes dans la génération de l'ici et du maintenant. Je veux quelque chose, j'active ma carte de crédit, Amazon Prime, je l'ai le lendemain. C'est notre société, mais Dieu n'a pas changé. Il est sur son trône. Il a connu Abraham, il a connu David, il a connu Joseph, il a connu Noé. Donc il n'y a rien en lui, en nous, qui l'épate, au point qu'il va changer pour s'adapter à nous. Et je sais que s'il y a une des choses les plus difficiles à faire dans la vie chrétienne, c'est la patience. Attendre. Mais savoir attendre, c'est important parce qu'on va voir que Joseph, il ne va pas seulement devenir premier ministre, il va réussir comme premier ministre. Et souvent, la clé dans l'échec ou la réussite, c'est la préparation. J'ai vu beaucoup de gens démarrer des ministères 3 ans après l'Église était éclatée. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de préparation. Le don, c'est important, mais le caractère, c'est votre caractère qui va supporter ce que le don va vous emmener. La Bible dit que le don ouvre les portes, mais ton caractère peut fermer les portes que ton don t'a ouvertes. Et souvent, on ne se rend pas compte de ça. Tu peux devenir pasteur parce que tout le monde t'apprécie, mais si tu passes ton temps à abuser les gens, à insulter les gens, à manquer de respect aux gens, ton église elle va se vider. C'est notre caractère qui soutient ce que notre don nous donne. Notre don nous donne. Bon. Et on va voir dans la Bible, à l'opposé du parcours de Joseph, un autre personnage très connu de la Bible qui lui n'a pas voulu attendre. Lui, il voulait ça tout de suite. Il est connu sous le nom du fils prodigue. Lui voulait ça tout de suite. Et pourtant, la Bible nous dit déjà dans Proverbe 20, 21 qu'une possession trop vite acquise au départ ne sera pas bénie à la fin. Quand on veut aller vite, ça ne dure pas. Et que va faire le fils prodigue ? Nous sommes dans Luc 15, versets 11 à 12. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Lui, il avait un père cool. Hein? Moi, je ne connais pas beaucoup de pères. Leur fils va leur dire, « Donne-moi l'héritage. » Il a dit, « Il n'y a pas de problème, je divise, prends l'argent. » Mais ce que la suite de l'histoire va nous montrer, c'est qu'il n'était pas prêt à gérer son héritage. Parce que qu'est-ce qu'il va faire de l'héritage ? Luc 15, versets 13 à 14. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Ça veut dire que quand il a demandé l'argent, il ne savait pas gérer l'argent. Parce que quand vous savez gérer l'argent, vous êtes au courant que ben, si je ne gagne pas de l'argent, même si j'ai 1 milliard de dollars, ben, un jour ça va finir. C'est le principe de base de la gestion. Si je fais des sorties, je dois faire des entrées. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui ont gagné 4 millions à la loterie et qui se retrouvent à l'aide sociale. Parce qu'ils ont dépensé, ils ont dépensé, ils ont dépensé. Ils n'ont pas pensé à fructifier dans un moment, mais ils ont tout vidé. Et c'est des histoires qu'on renvoie tout le temps à TVA. Il a gagné 1 million et puis aujourd'hui, il a l'aide sociale, il n'a pas de maison. Ou bien certains se retrouvent même itinérants après avoir gagné des millions parce qu'ils n'ont pas compris que ben, si je dépense sans faire d'entrée, quelle que soit la fortune que je peux avoir, à un moment, je n'aurai plus rien. Donc, on voit que le fils prodigue, il était pressé, comme nous sommes souvent pressés. Seigneur, je veux le ministère. Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, Seigneur, demain, il faut que je marie. Cette année ne doit pas finir. Il y a un cantique qui était très célèbre, les gens chantaient ça. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Moi, je vois les gens avec la foi. Le Dieu d'Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Il a mis 25 ans à avoir un enfant, 25 ans. Toi, tu penses que c'est parce que tu changes, je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui, que Dieu va changer le ciel pour toi. Il faut bien relire la Bible, quelquefois. Et on voit que le fils prodigue, il était pressé. Mais il était héritier. Hein. Ce n'est pas qu'il n'héritait pas, il était héritier. Mais il n'était clairement pas capable de gérer son héritage. Il n'était pas capable. Quelle est la logique du fils prodigue ? N'oublions pas que le fils prodigue, c'est le deuxième. Il y a une loi d'héritage en Israël qui est la loi du fils aîné. Le fils aîné, il avait droit à la double portion. Donc, si un père avait 2 fils, on divisait l'héritage en 3. Le fils aîné avait 2 parts et le petit en avait 1. Mais lui, son calcul, c'était quoi ? C'est de se dire, maintenant que je travaille avec mon père, en fait, c'est mon frère aîné que j'enrichis. Parce qu'à la fin, si moi je travaille pour 3, ben, il y en a 2 pour mon aîné, il y en a 1 pour moi. Je travaille pour l'enrichir. Mais il n'avait pas compris que tant qu'il travaillait avec son père, il gagnait une expertise qui allait lui permettre de gérer son argent après. Lui, tout ce qu'il voyait, c'est que je suis en train d'enrichir. Et on voit ça souvent dans le ministère, on voit ça souvent dans la vie. On voit des gens qui travaillent auprès d'autres personnes et puis qui se disent « Ah, mais pourquoi je me dépense autant ? J'enrichis mon patron. » Je vais faire ma propre entreprise, mais est-ce que tu es sûr que tu peux gérer ta propre entreprise? Vous êtes dans une église prophétique, vous commencez à prophétiser. Et vous vous dites, je vais lancer mon ministère prophétique. Est-ce que tu es sûr que tu es capable de gérer un ministère prophétique? Ce n'est pas la même chose de travailler sous l'autorité de quelqu'un et de devenir le patron. Ce ne sont pas les mêmes responsabilités, ce n'est pas le même niveau de défi. Et j'ai vu beaucoup de gens se casser le nez parce que ce n'est pas qu'ils n'étaient pas évangélistes, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas prophètes, mais ils n'étaient clairement pas prêts à gérer un ministère. Ils avaient l'appel était clair. Ils priaient pour des gens, ils guérissaient les gens, mais ils avaient un problème avec l'argent. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à demander de l'argent pour prier pour les gens. Et souvent, on est comme le fils prodigue, j'ai un don, je suis héritier, j'ai un don de prophétie, il faut que demain il faut qu'on me donne le micro, demain il faut que je dirige l'occulte, je suis un grand champ. Oui, mais ce n'est pas parce que tu as une voix extraordinaire que ça veut dire que tu es déjà capable de diriger. Tu vas devenir un chant connu à l'église? Moi, j'en ai vu un. Toutes les filles l'attendaient à la sortie du culte. Oh, frère, vraiment, quand tu as chanté, vraiment, je t'ai dit, Dieu m'a parlé. Frère, je t'ai fait un gâteau. Et le gâteau avait toujours la forme d'un cœur, comme par hasard. Il faut gérer ça. Frère, vraiment, Dieu m'a dit que tu es mon mari. Vraiment, quand tu chantes, je t'ai dit que j'avais mal à la tête, mon mal de tête est parti. Non, vraiment, tu es où? Il faut gérer ça. Il faut gérer ça. Il faut être assez mûr pour gérer ça. Vous commencez à prêcher dans l'église. Il y a des gens qui vont venir vous dire, mais toi, quand tu prêches mieux que le pasteur, hein, vraiment. Je ne sais même pas ce que le gars a fait là. C'est toi qui es où dans l'église là, c'est toi. Et ils vont commencer à vous monter la tête. Et si vous écoutez, vous allez bien vous casser le nez. Moi, j'ai vu des gens qui sont partis d'une église avec des gens. Tout un groupe, les anciens, les gars qui sont partis. Oh, l'homme de Dieu n'a plus l'onction, c'est toi le nouveau, c'est toi. Ils sont arrivés là-bas, ils n'ont pas fait un an, ils se sont divisés. Les mêmes gens qui lui avaient dit, sortons de l'église, c'est toi le oint, les mêmes gens lui ont dit que tu n'as jamais été appelé. C'est ça quand on n'a pas de temps de préparation. On suit le don, j'ai le don. Quand je chante, les gens sont guéris. C'est pas l'effet du ministère, ce n'est pas une affaire de chanter. Ce n'est pas une affaire de guérir. Comme quelqu'un a dit, même un sorcier peut guérir. Allez en Afrique. Il y a plein de gens qui vont chercher des solutions chez le sorcier, dont le problème, ce n'est pas le miracle. Quel est le cœur qui fait le miracle? Quelle est la motivation du miracle? Tout le monde peut faire un miracle. Il ne voulait pas enrichir son frère. Il ne voulait pas enrichir son frère, mais à la fin, il a tout perdu. Parce que quand on raconte l'histoire du fils prodigue, on oublie toujours la partie où le père dit au fils aîné, quand le fils aîné se fâche. Le père dit quelque chose au fils aîné. En Luc 15, 31, « Mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » À qui dit ça? Au fils aîné. Ça veut dire qu'en fait, le fils prodigue, après la fête là, la réalité c'est qu'il n'a plus d'héritage. Pour ne pas avoir voulu enrichir son frère aîné, il a tout perdu. Tout. Dieu n'est pas pressé. Il y a des gens qui pensent que le mariage, c'est la solution à leur problème de sexualité. J'ai une addiction à la pornographie, je vais me marier. Tu seras toujours addict à la pornographie avec une bague au doigt. C'est tout ce que ça va changer. C'est tout. Parce que le mariage n'est pas un remède contre l'immoralité sexuelle, c'est une utopie. Vous avez des problèmes de fornication avant le mariage, vous aurez des problèmes d'adultère après le mariage, c'est juste le mot qui va changer. Et la seule différence, c'est que vous allez briser le cœur de quelqu'un. Si tu sais que tu as des problèmes dans ce domaine-là, règle-les avant de te marier. Règle-les avant de te marier. « Tu as des problèmes de pardon, mais tu veux être leader. Tu veux être leader, tu as des problèmes, tu ne sais pas pardonner, tu es rancunier. Tu te souviens même encore de quand ta petite sœur t'avait arraché la poupée à l'âge de 3 ans. Tu as 43 ans. Et tu racontes encore quand j'étais petite, j'avais 3 ans, ma sœur m'avait arraché la poupée. 40 ans plus tard, tu n'as pas oublié. Mais tu veux être leader. Qu'est-ce que tu vas faire quand des gens en qui tu as investi vont quitter ton église en racontant des calomnies sur toi partout? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire comme Jacques et Jean, tu vas appeler le feu du ciel. Parce que les gens t'ont rejeté. Allons au rythme de Dieu. Si une porte est fermée, gloire à Dieu. Peut-être que je ne suis pas encore prêt. Je veux un travail, je veux une promotion, je ne l'ai pas. Peut-être que je ne suis pas encore prêt. 22 ans. 13 ans pour transformer un jeune berger de Canaan en premier ministre. 13 ans. Dieu n'est pas pressé. Nous, nous sommes pressés. Mais avoir la foi, c'est laisser Dieu être Dieu. Et s'il est Dieu, c'est lui qui dicte le tempo. Et je marche à son tempo. Il me dit de m'arrêter, je m'arrête. Comme le peuple d'Israël dans le désert, quand la nuit est restée là, il restait là. Et quand on dit d'avancer, j'avance. Sinon, je vais finir comme le fils prodigue. Il y a eu la fête, oui. Mais la fête n'a pas arrêté le fait qu'il n'avait plus rien. Plus rien. Parce qu'il a été trop pressé. La deuxième chose que nous pouvons retenir de l'histoire de Joseph, et je vous ramène en Genèse 37:8, qu'est-ce que ses frères vont faire quand il annonce sa fameuse prophétie des gerbes qui vont s'incliner? Genèse 37:8, ses frères lui dirent, est-ce que tu prétends régner sur nous? À moins que tu ne prétendes être notre maître. Et le pire, c'est que les deux choses vont se passer. Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Les rêves de Joseph, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont alimenté la haine de ses frères. On le voit dans Genèse 37, au verset 18 à 20. Ils le virent de loin et avant qu'ils ne se soient approchés d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voilà le maître rêveur qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Tout le monde ne va pas croire en toi. Tout le monde ne va pas te croire. Tout le monde ne va pas croire en tes projets. Tout le monde ne va même pas croire que tu as un appel. Il y a des gens qu'on va leur dire que tu vas te marier, ils vont dire celle-là, en mariage, tu n'as pas faire un an. Il y a des gens à qui tu vas dire, je veux postuler pour être responsable. Toi, responsable? Non, mais franchement, tu t'es regardé. Il y a quelqu'un qui me racontait hier qu'il était en Afrique et puis Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit qu'il devait aller aux États-Unis. Il a annoncé à son pasteur. Le pasteur lui a dit, tu racontes n'importe quoi. Toi, quel niveau d'études? Parce qu'on lui a dit, il a dit à son pasteur, j'ai un appel pour prêcher. Le pasteur lui a dit, toi, tu as fait l'école. Quelle prédication tu vas faire? C'est ça. Abandonne ça. Des gens comme ça, vous en aurez partout. Vous en aurez partout. Vous en aurez au travail. Vous en aurez à l'école, vous en aurez dans vos familles. Parfois, ça va être vos propres parents. Ça, c'est le pire quand ce sont tes propres parents. Parce que quand ce sont tes parents, c'est des mots qui te marquent à vie. Je connais quelqu'un qui avait eu un concours pour une grande école. Son père allait enlever son nom. Il a dit, enlevez le nom de mon fils, il est trop bête, il ne peut pas réussir. Le père est parti dire aux gens de l'école, le fils a eu le concours correctement, mais lui, il allait dire enlever son nom, c'est une place perdue. Il ne peut pas réussir ici, il est trop bête. S'il était trop bête, comment il a fait pour avoir le concours? Donc, vous allez avoir des gens comme ça. Vous allez avoir des gens comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Joseph, les gens n'ont pas dansé. Même Jacob lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire tes rêves? Personne n'a dit à Joseph, alléluia, c'est merveilleux. Nous, on pense qu'on va venir dire aux gens, je vais me marier, les gens vont sauter de joie pour nous. Et les gens qui vont te dire, toi, tu peux te marier, toi. Toi, là, tu peux te marier. Toi, tu peux te marier. On s'attend à ce qu'on va venir dire aux gens nos rêves. Nos... C'est pour ça qu'on ne raconte pas ses rêves et ses projets à n'importe qui. Parce qu'il y a des tueurs de rêves. Il y a des gens, leur travail dans la vie, c'est de tuer les rêves des autres. Eux-mêmes, ils n'ont pas de rêves, ça ne les dérange pas. Mais leur travail, c'est de tuer les rêves des autres. Toujours des paroles négatives. Toujours en train de rabaisser. Toujours en train de dire des méchancetés. Éloignez-vous de telles personnes. Il y a des gens qui sont comme des extincteurs. Leur travail dans la vie, c'est d'éteindre les feux des autres. Dès que Dieu à lui-même peut, il veut mettre une parole. Dieu à lui-même peut. Et quand tu finis ta conversation avec lui, tu étais enthousiaste. Est-ce que tu viens là-bas, tu as battu. Parce que tu as parlé avec lui 2 minutes. Toute ta joie est partie. Et je reviens encore à l'importance de la préparation. James Gold, il est considéré comme l'un des plus grands prophètes des États-Unis. Il a plus de 50 ans de ministère prophétique. Il a dit une chose. Il a dit que tout prophète doit être guéri en matière de rejet parce que le rejet est lié au ministère prophétique. Ça veut dire que si tu veux être prophète, si tu n'es pas guéri dans le rejet, tu vas finir aigri. Et puis tu vas faire comme les autres, tu vas mourir dans le désert. Parce qu'on va te traiter de Jézabel. Un jour, il y a quelqu'un qui va te traiter de Jézabel, ça ne manque pas, surtout quand tu es une femme. Là, je pense que ça, c'est la plus grande truc. Joss Meyer, à un moment, l'a traité de Jézabel, est obligé de dire, mais Jézabel, c'est une prophétesse. Moi, je ne suis pas prophétesse, moi j'enseigne, je ne suis même pas prophétesse. On va te traiter de Jézabel, on va te traiter de faux prophète, on va dire que tu n'as pas d'appel, on va dire que ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Tu vas faire quoi? Tu veux te marier. J'ai une amie, elle a rencontré l'homme de sa vie, et puis il dit, tu sais, je vais te présenter ma mère elle est gentille. Donc on fait la petite réception, elle arrive, toute la famille est contente, voilà ma future femme. Donc la belle-mère est très gentille. Et à un moment, le fils dit à sa mère, ben écoute, j'arrive. Dès que le fils s'est levé de table, elle a regardé mon ami dans les yeux, et puis elle lui a dit, la belle-mère a regardé mon ami dans les yeux, et puis elle lui a dit que tu penses que tu as trouvé un mari. Je me suis débarrassée de toutes celles qui étaient là avant toi. Et je me débarrasserai de toi aussi. Et quand son fils est revenu, elle a continué à sourire. Et ça a été des années de cauchemar. Parce que son fils ne croyait pas ce que sa femme lui disait. Tu veux le mariage? Tu ne connais pas tes beaux-parents? Ils peuvent être gentils, mais peuvent aussi être aussi des pestes sur deux pattes. Et si, comme Joseph, tu ne sais pas gérer le pardon, tu vas être marié aigri, amer, haïssant ta belle famille, ne supportant même pas le son de la voix de ton petit beau-frère. Le rejet fait mal. Les paroles négatives, ça fait mal, ça blesse. Et si vous avez reçu des paroles négatives, il faut en guérir. Il faut pardonner aux personnes, les relâcher et annuler ces paroles dans vos vies. Comme on dit en Afrique, nul et sans effet. Parce que si vous prenez ces paroles, vous les mettez dans votre cœur, ça va vous détruire. Il faut faire comme Joseph. Tes frères te disent que tu vas régner sur nous. Tu dis, ça c'est votre problème là-bas. Moi j'ai ma vie à continuer. Parce qu'il y a beaucoup de gens que je rencontre et qui me parlent, mon père m'a dit ça, ma mère m'a dit ça, mon pasteur m'a dit ça, mon frère m'a dit ça, et ils sont blessés. Mais vous aurez toujours des gens comme ça sur votre route. Même à l'école. Parfois vous demandez à faire une série et vous avez un enseignant qui dit, toi tu peux faire cette série-là. Toi, non, franchement. Passe à autre chose. même à l'école. Ça commence très tôt. Même votre propre père, votre propre mère peuvent détruire vos rêves si vous lui donnez l'autorité de détruire vos rêves. Donc, la deuxième chose qu'on apprend avec Joseph, c'est que face au rejet, j'apprends à ne pas prendre en compte les méchancetés qu'on me dit. Et je continue mon chemin. Ce n'est pas à moi. Quand Joseph est devenu premier ministre, il n'est pas allé narguer ses frères en disant « Vous voyez, un jour, c'est devenu premier ministre. » Il est resté sur son trône en Égypte et puis il a attendu que ses frères viennent. Ce n'est pas à vous de vous justifier. Ce n'est pas à vous de vous faire reconnaître. Ce n'est pas à vous de montrer que vous êtes une bonne personne. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas un combat que vous devez mener. Ce n'est pas un combat. Je veux qu'on sache que je suis bien. Ce n'est pas grave. Il y a toujours des gens qui vont penser des méchancetés de toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Parfois, tu ne sais même pas. Parfois, quelqu'un a raconté que tu as dit, que tu as dit, que tu as dit. Parfois, tu n'as même pas dit. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce n'est pas un combat. Joseph n'a pas mené ce combat-là, ne le menez pas. C'est un combat qui perd du temps. C'est un combat qui blesse. Si les gens pensent des choses de vous, si les gens pensent que vous êtes comme ils ont pensé que Joseph était arrogant, ils ont pensé qu'il était orgueilleux, enfin, alors que Joseph, en fait, leur racontait juste son rêve. Il racontait juste son rêve. Mais ils ont pensé qu'il était arrogant, ils ont pensé qu'il était orgueilleux. Alors qu'il racontait juste un rêve. Il y a des gens qui vont interpréter tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Vous n'y pouvez rien. Examinez votre conscience. Est-ce que j'ai vraiment fait ça? Non, je n'ai pas fait. Continue mon chemin. Ce n'est pas à toi d'aider Dieu à faire ce que Dieu a dit. Je dis souvent que si un homme t'arrête, c'est que Dieu ne t'a pas parlé. Si un homme a la capacité de t'arrêter, c'est qu'en fait Dieu ne t'a jamais parlé. Si un homme a la capacité de briser tes rêves, c'est qu'en fait ils ne viennent pas de Dieu. Parce que moi, le Dieu que je connais, il donne des utérus à des femmes à qui on a retiré l'utérus. Reconstitution d'utérus complet. Le médecin, son gynécologue qui avait enlevé l'utérus, est devenu chrétien. Il n'a pas besoin d'aide. Dieu n'a pas besoin que tu l'aides. 1 Samuel 2, 7 dit que l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Ce n'est pas la peine de t'agiter, de vouloir forcer le processus, de vouloir aller plus vite que la machine. C'est quoi notre vrai combat? Notre vrai combat tout au long du chemin qui mène à la réussite, c'est Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est ça ton combat. Garder ton cœur de la méchanceté des hommes. Garder ton cœur des paroles négatives. Garder ton cœur de l'échec. Gardez ton cœur des prières non exaucées. Parce que les prières non exaucées, si ça est gris, quand ça fait 10 ans que tu pries pour quelque chose et puis ça ne vient pas. Il y a des gens qui sont fâchés contre Dieu, mais sérieusement fâchés parce qu'ils ont prié pour leur femme et leur femme est partie. Puis ils sont fâchés contre Dieu. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on doit régler. Il faut qu'on soit capable, comme Joseph en Genèse 50, 21, de dire, il a dit à ses frères, vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Notre confiance, c'est que Dieu tient nos vies entre ses mains. Et peu importe ce que les hommes nous font ou ne nous font pas, peu importe qui croit en nous ou qui ne croit pas, finalement, l'important, c'est que Dieu croit en nous. L'important, c'est que Dieu nous ait parlé. L'important, c'est que Dieu porte le monde dans ses mains. Il est Dieu avant même que le monde ne soit. Et quand ce monde sera passé, il sera toujours Dieu. Dans mes moments de joie, il est sur le trône. Dans mes moments de défaite, il est toujours sur le trône. Quand je vais bien, il est sur le trône. Quand je suis malade, il est sur le trône. Quand je travaille, il est sur son trône. Quand je suis au chômage, il est toujours sur son trône. Ce que je vis ne change pas qui Dieu est. Hébreux 12, 2 nous dit de garder les yeux fixés sur Jésus. Il est notre source. La Bible dit que c'est le chef et le consommateur de notre foi. Mais moi, je préfère dire qu'il est notre source et notre ressource. Garde ton cœur de l'amertume. Garde ton cœur de la rancune. Ça va détruire ta vie. Comme Joseph, sachant aller au rythme de Dieu et sachant garder nos cœurs tout au long du processus. Et je vais terminer mon propos ce matin par une prière. Et si, je vais juste vous demander de dire amen à la fin. Cette prière, elle reprend un peu, elle résume un peu. Si Benjamin peut monter, s'il te plaît. Cette prière, elle résume un peu le message. Seigneur, la Bible dit en Ecclésiaste 3:11 que tu fais toutes choses belles en ton temps. Comme Joseph, j'attendrai patiemment que tout ce que tu m'as dit se réalise. Je ne forcerai pas les choses pour ne pas aller à la catastrophe et tout perdre comme le fils prodigue. Je compterai sur toi seul et j'aurai confiance en ce que tu m'as dit. Je refuse l'amertume liée au rejet et je te demande de me guérir des blessures émotionnelles liées aux paroles négatives que j'aurais reçues par le passé. Je te demande de rendre mon front dur face à mes adversaires. Je te demande de rendre mon front dur face aux personnes qui ne croient pas en moi. Et je te demande de restaurer ma confiance en toi et en moi-même. Que tout ce que tu m'as dit, tu le feras. Amen.
Prosternés, nous confessons